Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Face aux crises actuelles à tiroir d'un système économique, du climat ou de la Covid, le pape François n'a de cesse d'inviter à changer de paradigme pour répondre à un défi de civilisation. Et si les pionniers de ce nouveau monde étaient à chercher a priori loin des réalités ecclésiales, ils l'ont fait. C'est un peu l'exclamation en effet qui monte du cœur quand on découvre le mouvement des Colibris et ses oasis, un mouvement initié par Pierre Rabhi, célèbre figure de la décroissance qui a fait des petits un peu partout en France, jusque dans nos villes et campagnes les plus proches, un réseau de lieux appelés des oasis pour créer des espaces de vie résilients, dirait-on aujourd'hui, respectueux de la terre et des hommes. Oasis, les Colibris, le monde d'après, point d'interrogation, c'est le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi, traditionnellement dévolu à des réalités loin des réalités spirituelles ou ecclésiales, pour découvrir plein de belles choses. Autour du plateau, pour nous parler des Colibris et des Oasis, Gabrielle Paoli, vous êtes directrice générale de la coopérative Oasis, bonjour.
Bonjour.
Elisa Terrade, vous êtes membre de Mascop, un habitat participatif à Beaumont-sur-Lèze, bonjour.
Bonjour.
Qui fait partie, donc, qui est reconnu comme un oasis. Et Thomas Berthet, vous êtes, vous, là pour Abricop aux 80, qui est un autre habitat participatif à Toulouse, bonjour.
Bonjour.
On va commencer avec vous, Gabrielle Paoli, pour nous dégrossir, pour ceux qui par hasard ne connaîtraient pas ni les oasis, ni les colibris. Alors je le disais peut-être en tout début, on peut repartir de cette expression, changer de paradigme. Ça m'a fait sourire parce qu'en préparant l'émission et en parcourant l'une ou l'autre interview de Pierre Rabhi, il utilise exactement la même expression. On ne sait pas qui a piqué l'expression à qui, entre le pape François et Pierre Rabhi. Si on devait commencer par ça, par on va dire le rêve ou la vision de ce grand mouvement, même si tout ça est distinct, des colibris, des oasis, etc. Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que c'est que ce changement de paradigme que Pierre Rabhi appelle de ses voeux, Gabrielle Paoli?
Alors bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Peut-être pour aborder colibris et le changement de paradigme dont a beaucoup parlé Pierre, on pourrait raconter la légende du colibri, tout simplement, qui est assez rapide. Et qui dit qu'un jour, un immense incendie de forêt se déclare, que tous les animaux complètement terrifiés se terrent dans un coin en espérant que le feu n'aille pas jusqu'à eux. Il y a juste le petit colibri, petit oiseau, qui commence à faire des allers-retours entre une mare et l'incendie pour goutte à goutte essayer de l'éteindre. Évidemment, il y a un tatou qui s'agace et qui dit « arrête, ça sert à rien ». Et le colibri répond « Je le sais, mais je fais ma part ». Et donc le mouvement colibri initié par Pierre Rabhi s'est fondé là-dessus, faire sa part et aider à tous ceux qui le souhaitent à faire leur part. Donc il s'agit d'un changement de paradigme qui est à l'échelle individuelle, qui est à l'échelle aussi de chaque personne. Donc chacun fait ce qu'il peut, où il le peut, mais en transformant petit à petit notre façon de consommer, d'habiter, d'interagir aussi les uns avec les autres, on arrivera peut-être à faire nombre et à transformer la façon d'habiter le monde collectivement.
Alors, en vue de quoi? Quelle serait quelque part la vision ou le rêve de ce grand mouvement? C'est difficile probablement à résumer, hein, je disais, hein, des lieux résilients, respectueux de la terre et des hommes. Quels seraient vos mots à vous?
Alors, l'objectif final, je pense qu'on est beaucoup à le partager et il est assez simple. Il s'agit d'arriver à faire en sorte que les hommes habitent cette planète sans détruire les conditions de leur existence, tout simplement. Et pour ça, il y a plein de façons très, très différentes. Je pense que ce qui est assez puissant dans la parole de Pierre Rabhi et dans les mouvements qu'il a créés, c'est de dire qu'il n'y a pas une seule et bonne façon de faire. Chacun doit trouver sa façon d'habiter le monde sans le détruire et qui lui correspond. Et le mouvement des oasis, donc le mouvement des lieux de vie et de travail collectif qui sont nés au sein de Colibri, c'est une des façons d'habiter le monde de façon durable. Voilà.
Alors, ça, on va dire ça, c'est pour l'introduction. De toute façon, on va découvrir au fil de l'émission. Tout a commencé donc par Pierre Rabhi, par une rencontre aussi avec Cyril Dion. Pardon pour ceux qui suivent un peu régulièrement cette émission, parce que c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on en parle, mais on essaie toujours de penser à ceux qui montent dans le train en cours de route. En 2000, je sais pas quand ils se sont rencontrés, en tout cas en 2007, ça a donné lieu donc au mouvement Les Colibris au début. On peut lire plein de choses sur le mouvement des Colibris. C'est une vaste réalité aujourd'hui. Il y a une revue, il y a des groupes locaux, il y a des universités, des Colibris. Bref, c'est un grand mouvement. Vous avez même une charte. Alors peut-être, moi j'ai relevé quelques éléments de votre charte. Nous sommes tous liés et interdépendants. La société, c'est moi qui suis la société. L'avenir est dans le génie de la simplicité, le pouvoir de la créativité et l'élégance de la sobriété. Ça, c'est un peu pour les déclarations d'intention. Mais à quoi ça ressemble aujourd'hui ? À quoi ressemble ce mouvement avant qu'on parle de la coopérative Oasis ?
Alors ce mouvement, il est extrêmement divers et il a plein d'actions différentes. Le mouvement Colibri, il soutient tous ceux qui veulent faire leur part. Du coup, il y a plein de façons de faire sa part aujourd'hui. Il y a faire du zéro déchet, il y a le fait d'avoir des écoles alternatives avec des pédagogies plus adaptées à la diversité des élèves qui y vont. Il y a le fait d'avoir des gouvernances respectueuses de chaque membre des organisations et à l'écoute des besoins. Donc, et toutes ces façons de faire sa part, Colibri forme, Colibri inspire en montrant une diversité de pratiques et de réalisations aujourd'hui. Donc c'est vraiment, ça couvre des champs très très différents et en donnant des réponses assez diverses les unes des autres. Peut-être pour préciser quand même, et quelque chose qui, c'est peut-être en ça que la parole de Pierre Rabhi peut se rapprocher en un sens de celle du pape François, ce qui est très important pour les Colibris, c'est de dire qu'il n'y a pas de transformation sociale sans transformation intérieure. Et que c'est la différence de posture et l'examen de soi et de la façon d'aborder le monde qui permettra de changer ensuite les contours de la société. Mais il faut commencer par soi et par une espèce de scan et d'examen de soi-même et de ses valeurs.
Voilà, alors la charte, c'est en fait de fait l'éthique du colibri. Et c'est vrai qu'en deux, on pouvait lire, donc j'ai commencé de le citer, la société, c'est moi qui suis la société, c'est mon changement qui détermine le changement du monde. Alors, plus récemment a été créé donc un bébé du mouvement des Colibris, en tout cas un prolongement naturel, la coopérative Oasis, dont vous êtes donc la directrice générale. Quelle est cet enfant du mouvement des Colibris et pourquoi l'avoir créé ?
Oui, alors je précise, je suis directrice adjointe, hein, ça vaut le coup de le préciser. Alors, la coopérative Oasis, elle est née effectivement au sein du mouvement Colibri. Donc, parmi toutes les façons de faire sa part, il y avait la dimension habitat et travail. Et il y avait déjà tout un tas de collectifs en France qui imaginaient des lieux de vie et souvent des lieux d'activité collectifs et écologiques. Donc, ces lieux, au sein de Colibri, on a décidé de les rassembler dans un réseau avec ce fameux mantra de Cyril Dion, « se compter pour compter ». Et de dire, bon ben voilà, ils existent, ils partagent des valeurs, ils ont des pratiques différentes, mais ils imaginent une façon d'habiter le monde qui soit viable en prenant soin des sols, en baissant les émissions carbone, en utilisant des matériaux biosourcés pour les maisons, en remettant des emplois artisanaux dans des campagnes un peu désertées. Et donc ces lieux, on les a réunis en un réseau. On a développé plein d'outils pour les aider à se construire, parce que c'est pas toujours facile de faire de l'habitat collectif aujourd'hui. Et puis, au bout de quelques années, en fait, c'est un modèle de vie qui s'est tellement développé en France qu'on est devenu un gros réseau à l'intérieur de Colibri. Et puis, c'est l'histoire des organisations. On a décidé de prendre notre autonomie et on a monté effectivement la coopérative Oasis. Est-ce que je peux dire un mot du mode de financement qu'on a imaginé ?
Alors, avant ça, des Oasis, si j'ai cru comprendre, il y en a de trois types. Oasis de vie, de ressources et vie et ressources. Alors, est-ce que vous pouvez expliciter et puis donner peut-être l'un ou l'autre exemple ?
Oui, alors les oasis de vie, c'est des lieux essentiellement centrés autour de l'habitat. Il y a des collectifs qui se réunissent pour habiter ensemble, sans forcément travailler sur place et souvent en travaillant à l'extérieur. Nous, on les appelle oasis, mais plein d'autres appellent ça habitat participatif, habitat partagé. Il y a plein de dénominations différentes. Par exemple, je peux donner l'exemple de l'éco-hameau de la Serventie. C'est un groupe de retraités, bons copains, qui, une fois que leurs enfants ont quitté l'habitat familial, ont décidé de se mettre ensemble pour habiter ensemble. Donc, ils ont acheté un terrain en Dordogne, construit leur maison bioclimatique. Et aujourd'hui, il y a une dizaine de foyers qui habitent ensemble. Ils ont leur petit potager partagé. Ils ont une salle commune pour accueillir l'association du coin. Et puis, ils vivent ensemble, tout simplement. Ça, c'est pour les oasis de vie. Et puis, les oasis ressources, c'est des lieux qui s'organisent autour d'une activité. Donc, ça peut être une activité commerciale ou associative. Il y a toujours la dimension collective, mais les gens n'habitent pas sur place. Alors, pareil, il y a plein de dénominations, tiers-lieux, ressourcerie, on les appelle de plein de façons différentes.
Alors un exemple, ça donnerait quoi peut-être dans notre Occitanie?
Alors je peux penser à la ressourcerie du pont qui se trouve au Vigan. Donc là pour le coup c'est un collectif extraordinaire qui a racheté une ancienne usine pour la transformer en ressourcerie, c'est-à-dire en lieu qui récupère tous les déchets que les gens veulent bien leur donner, les réhabilite et les revend à très bas prix ou bien les envoie aux déchets mais au tri. Donc c'est un collectif très fort qui habite pas sur place, mais qui s'organise autour d'un lieu pour avoir une activité commune, écologique et vertueuse.
Alors on peut trouver une carte des oasis, preuve qu'il y a de plus en plus d'oasis, en tout cas qui sont reconnues comme telles. C'est que maintenant il faut vraiment zoomer sur certaines parties de la France pour arriver à tous les distinguer. Mmh. Vous alliez parler du mode de financement, j'imagine que ça va aussi avec l'explicitation de coopérative.
Oui, exactement. En fait, effectivement, aujourd'hui, il y a près de 1200 projets dans le réseau. Alors, tous ne sont pas aboutis et habités, mais au moins des collectifs, ils commencent à se mettre en marche. Ces collectifs, ils ont du mal à se monter parce qu'il faut être un peu un super-héros. Il faut avoir du temps, souvent un peu d'argent, des compétences de comptabilité, juridique, architecte. Enfin, voilà, c'est très compliqué. Donc, on a décidé de réunir des compétences, des savoir-faire et des bonnes pratiques au sein d'une coopérative dont font partie tous les lieux, tous les collectifs et qui, grâce à elles, se transmettent les bonnes pratiques, les bons contacts, les bonnes façons de faire, voilà. Et au-delà même de tout ça, il y a la question essentielle du financement. On s'est rendu compte très tôt, quand on était à Colibri, que ces collectifs, ils avaient du mal à avoir accès aux prêts bancaires pour plein de raisons très différentes. En tout cas, ils se finançaient difficilement et on s'est dit qu'on
Les raisons, si vous deviez vous arrêter deux secondes, c'est que ça fait peur aux banquiers, c'est ça, c'est hors cadre. Et puis peut-être que parfois aussi, il y a ceux qui montent ces projets qui n'ont pas toujours envie de se tourner vers le système bancaire classique, non?
Oui, alors il y a ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de collectifs qui veulent passer outre les banques et qui parfois y arrivent. Peut-être vous l'avez dit, hein, je pense que c'est la raison essentielle, c'est hors cadre. C'est-à-dire qu'il y a même parfois dans les banques, même souvent, des gens très bien intentionnés qui veulent aider les groupes. Mais il y a des telles offres standardisées avec un temps à passer qui est limité face à des projets collectifs qui sont compliqués, qui nécessitent du cas par cas, du temps, de la compréhension. En fait, les banques, elles sont pas faites pour les accompagner. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas le cadre. Ça marche pas. Il faudrait qu'ils arrivent à faire du cas par cas et qu'ils aient des compétences un peu au-delà de ce qu'ils font traditionnellement.
Donc, alors comment vous financez et puis même peut-être comment chacun peut participer, puisque j'ai cru comprendre c'est un peu la logique d'une coopérative.
Exactement. Ce qu'on s'est dit, nous, on n'a rien inventé, on s'est inspiré de lieux qui, eux-mêmes, n'ayant pas accès aux prêts bancaires, faisaient appel à leurs amis, à leurs proches, en disant prêtez-nous 10 000, 20 000 euros et puis on vous les rembourse au fil du temps sans intérêt. On s'est dit qu'on allait faire la même chose, mais à l'échelle nationale. Donc, on propose à tous ceux qui le souhaitent, citoyens ordinaires, habitants ou pas du tout en écolieu, de placer leur épargne dans la coopérative Oasis. C'est 1 000 euros minimum, il y a même des déductions fiscales possibles, vu qu'on est une structure de l'ESS. Et pendant que ce capital est chez nous, on le prête, sans intérêt évidemment, au collectif, en les couplant ce prêt à un accompagnement technique et élargi sur tous les aspects du projet, ce qui leur permet d'avoir accès à des financements et à un accompagnement qui court sur toute la durée de l'apport financier. Et pour donner quelques chiffres, depuis 2018, ça fonctionne très bien. On a levé plus de 3 millions d'euros auprès de centaines d'investisseurs. On a prêté à des collectifs, une vingtaine de collectifs, des montants de en moyenne 200 000 euros sur 7 ans. Et en fait, ça répond à deux besoins assez collectifs de se monter, et puis aux citoyens qui en ont assez de mettre leur épargne dans des banques qui placent ce capital souvent dans des projets très carbonés.
Peut-être pour finir, Gabriel Paoli, avant de faire une première pause musicale et puis de retrouver un peu nos autres invités pour qui trouver à illustrer ce que vous venez de dire plus précisément. Il y a du monde qui se bouscule au portillon, si je puis me permettre d'être trivial. C'est-à-dire, en fait, vous avez quand même, on va dire, pas du tout assez de capital pour tous ceux qui ont envie de monter des projets. Est-ce qu'il y a une liste d'attente ?
Alors oui, je vous confirme qu'il y a une liste d'attente. Il y a beaucoup de collectifs qui ont besoin de sous. Nous, on priorise ceux qui n'ont pas du tout accès au système bancaire, mais si on pouvait, on prêterait encore plus, oui, tout à fait.
Eh ben, merci beaucoup, Gabriel Paoli. On va faire une première pause et puis on va retrouver nos autres invités pour illustrer donc, la partie habitat participatif, même si ça n'est pas exhaustif, de ces fameuses oasis.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Oasis, les colibris, le monde d'après, point d'interrogation. C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi matin avec Gabrielle Paoli, directrice générale adjointe de la coopérative Oasis, qui était avec nous au début de l'émission pour commencer de nous présenter ses réalités. Elisa Terrade pour Mascop Habitat Participatif à Beaumont-sur-Lèze et Thomas Berthet pour Abricop et aux 80 Habitat Participatif à Toulouse. On va commencer avec vous, Thomas Berthet. Donc si on imagine qu'on est sur la carte Oasis, les colibris, on zoome, on zoome, on zoome, on arrive en Haute-Garonne, on aurait pu s'arrêter ailleurs mais c'était quand même plus commode pour vous inviter, et donc on arrive à Toulouse, en Toulouse-Centre, donc c'est le quartier de la Cartoucherie, donc où s'est développé donc un habitat participatif. Vous me disiez 4 immeubles pendant la pause, bah, pourtant quelques dernières précisions, aux 4 vents, et dont l'un, habitat participatif Abricop. Alors avant que vous nous décriviez, allez-y, commençons par là. Si on était, on va dire, en hélicoptère, à quoi ça ressemble de l'extérieur, c'est un immeuble comme les autres, non?
Alors, je dirais que l'ensemble aux quatre vents peut ressembler à un îlot comme les autres dans ce nouvel écoquartier de la Cartoucherie. C'est une friche industrielle qui a été transformée en immeuble d'habitation largement. Effectivement, on aurait du mal à distinguer cette architecture contemporaine par rapport à d'autres tours. Pour le coup, j'ai la faiblesse de croire, la petite prétention de croire que l'immeuble de la coopérative Abricop est distinguable à l'œil nu, pour qui a l'œil un peu aiguisé, avec des jardins très différents, des bardages bois, une pergola. Enfin, on sent, pour l'avoir fait visiter récemment à une architecte qui a fait l'école qui est juste en face, il y a beaucoup d'intelligence au mètre carré, quoi. Ça a été pensé par des habitants, et finalement, l'un des intérêts principaux de l'habitat participatif, c'est que des habitants peuvent concevoir ensemble, avec leurs architectes, pas tout seul, leur immeuble. Et on ne peut jamais concevoir son immeuble en dehors de ce cadre-là. D'habitude, même si on a beaucoup d'argent, on va acheter son appartement sur plan, ou on va acheter dans l'ancien, mais en tout cas, on n'a pas conçu son immeuble. Là, les habitants peuvent concevoir ensemble leur immeuble, et c'est pas seulement des logements, et du coup, quand c'est bien fait, ça se voit.
Alors, donc, au quartier, enfin, à la Cartoucherie, donc quartier de la Cartoucherie, donc se retrouvait l'arsenal des Pyrénées, c'était, vous l'avez dit, donc, enfin, c'était autrefois une usine d'armement, puis c'était devenu une friche industrielle. Donc, vous, au milieu de ça, vous vous êtes trouvé, en fait, une place, et aujourd'hui, donc, il y a un îlot, quatre immeubles, 90 logements, si je ne me trompe pas. Comment ça s'est fait, en fait, vous vous êtes dit, tiens, là, il y a quelque chose, et puis est-ce qu'on se fait sa place assez facilement, ou est-ce que c'est une bataille comme avec les banques, comme nous le décrivait Gabriel Paoli?
Alors, notre projet au départ était plus modeste, hein. C'était simplement de créer dans le centre de Toulouse, ça c'était pas modeste, une coopérative d'habitants de 15 à 25 logements. Voilà. Et notre groupe était à peu près dimensionné selon cette jauge. Et puis, à force de se casser les dents à chercher tout seul du terrain, on avait aussi impliqué les pouvoirs publics pour qu'ils nous aident à accéder aux fonciers. Et de fil en aiguille, à partir de 2011, ça a mis 10 ans à se faire, hein, tout ça.
Quand vous dites ensemble, c'est combien de personnes au départ? Combien de familles peut-être?
Ben 15 à 25, quoi, toujours
15 à
dans cette
25
fourchette. Ouais,
unités, enfin foyers, on va
c'est
dire.
ça.
Ouais.
Alors il y a eu beaucoup de turnover depuis, hein, c'est plus les mêmes qu'en 2007-2008 quand on a monté le groupe, mais ceux qui ont emménagé en 2018, c'était toujours le même nombre, puisqu'il y a 17 logements dans l'immeuble d'Abricop. Et donc on a fini par nous proposer en 2011, donc à l'époque du maire précédent, une place dans cet écoquartier de la Cartoucherie, puisque la collectivité maîtrisait le foncier à cet endroit-là. Voilà. Et elle pouvait s'engager à nous réserver un espace. Et comme pour des histoires de pollution de sol dont je vous passe les détails, les lots sont forcément grands dans cet écoquartier, il a fallu nous grouper avec d'autres immeubles. Donc c'était soit des immeubles de bailleurs sociaux, soit des immeubles de bureaux, soit des immeubles de promoteurs privés standards. Et ce qui nous a semblé à tous le plus intelligent, ça a été de rassembler là les différents projets d'habitat participatif qui coexistaient à Toulouse à l'époque, et donc de monter effectivement là 89 logements, ce qui en fait le plus grand habitat participatif de France à l'heure actuelle, ce qui est, de l'avis unanime, un peu trop gros. Ce n'est pas l'idéal en termes de convivialité, de gouvernance, etc. C'est un peu lourd, disons, mais on s'en sort bien quand même. On fait contre mauvaise fortune bon cœur. Et même à cette échelle un peu gros et un peu subie, on arrive à faire quelque chose de très chouette là.
Alors, vous viendrez peut-être sur le montage et la manière dont ça s'est fait, mais qu'est-ce que ça a de différent si vous deviez commencer par décrire ça? On peut lire une cohabitation bienveillante entre voisins dans le respect des libertés de chacun, une gestion collective des espaces partagés. Ça dit tout.
Alors, si
Si on part
le
des
plus
lieux
petit
déjà.
dénominateur commun à l'habitat participatif, qu'on retrouve effectivement dans cet îlot aux quatre vents, c'est que les habitants conçoivent ensemble, ou au moins sont associés pour partie à la conception des lieux, en tout cas les habitants initiaux, et qu'ensuite ils gèrent ensemble les lieux partagés et ce qui s'y passe. Donc, une grande salle commune avec un déport sur le jardin, un grand local à vélo qui sert à différentes choses, quelques plantations. Un atelier de bricolage, etc. Et puis, à l'échelle de notre coopérative d'habitants Abricop, on va ajouter des chambres d'amis, des locaux de rangement partagés où on se fait confiance entre voisins qui se connaissent bien et qui gèrent ensemble la coopérative. On va ajouter
J'ai vu cuisine,
une
atelier
buanderie.
créatif.
Alors ça, c'est à l'échelle des autres immeubles d'O80. Il y a effectivement d'autres espaces que se partagent nos voisins, et notamment ceux que vous citez. Il y a effectivement un atelier d'art créatif, un studio de musique, un studio pour héberger des proches, une cuisine partagée, effectivement. Et puis des halls d'immeubles qui sont beaucoup plus que des halls d'immeubles, qui sont des espaces de convivialité avec des livres en partage, des baby-foot, des repas, des vélos garés, des canapés, voilà.
Donc quand on vient, on décide d'avoir son logement propre, mais on va dire on signe aussi pour s'engager à vivre quoi en amitié avec ses voisins, pour avoir régulièrement des temps communs. C'est un peu institutionnalisé aussi.
Alors vient qui veut, hein. Rien n'est obligatoire. On peut se mettre en retrait le temps qu'on veut. J'ai même quelques rares cas de voisins qui participent jamais à rien. Ils peuvent changer d'avis quand ils veulent, mais pour l'instant ils sont en retrait. C'est un peu dommage pour eux parce qu'ils financent des espaces qu'ils n'utilisent pas. Mais ils doivent trouver leur compte par ailleurs à habiter là dans une ambiance plutôt sympa, avec des convivialités de palier, que sais-je. En tout cas, à l'échelle de mon immeuble à Bricop en coopérative, on se donne aussi l'ambition d'extraire un immeuble entier de la loi du marché en matière d'immobilier. C'est-à-dire que des ménages qui ont des revenus extrêmement disparates, ça va vraiment de 600 euros par mois à 4000 euros par mois, hein. C'est une très très, très large fourchette, partagent le même immeuble et le même niveau de confort d'appartement avec des prix par mètre carré hyper adaptés aux revenus de chacun. Et ce définitivement quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de moment où quelqu'un devient propriétaire de son appart, ni de moment où l'appartement peut être cédé à prix de marché. L'appartement appartient pour toujours à la coopérative. Certains logements sont sociaux, d'autres pas. Ils sont mis à la disposition des habitants en fonction de leurs moyens.
À la location, du coup, c'est ça ?
On est chaque mois à la fois locataire et épargnant. C'est-à-dire qu'une partie de ce qu'on paye est un loyer perdu à jamais, qui sert, par exemple, à payer des intérêts d'emprunt, des impôts, etc. Et puis, une partie de ce qu'on paye chaque mois est une épargne qui peut représenter une proportion substantiel, je ne sais plus combien c'est chez vous, Elisa, à Mascop.
C'est un tiers.
Un tiers, voilà. Un tiers de ce qu'on paye chaque mois qui est épargné et récupérable à terme. Donc on n'est ni vraiment locataire, ni vraiment propriétaire. C'est vraiment un tiers secteur dans l'habitat qu'on a créé avec les coopératives d'habitants en France, où on est collectivement propriétaire de la société qui détient l'immeuble, mais en ayant mis sur la table beaucoup moins d'argent que la valeur de l'immeuble. Et ce, pour toujours. Il y a une décorrélation permanente entre le prix de la société et le prix du bien qu'elle détient.
C'est-à-dire, vous pouvez préciser ça, parce qu'on se dit que collectivement, il a fallu mettre la même somme quand même qu'un immeuble normal.
Et non. Collectivement, on a apporté 20 à 25% du prix de l'immeuble, et c'est tout. Et le reste, on l'a emprunté à une banque, et on le rembourse régulièrement à travers nos mensualités. Mais le capital de la société, c'est seulement 20 à 25% du prix de l'immeuble, et ce, pour longtemps. Ce qui veut dire que le ticket d'entrée pour nos successeurs, c'est d'apporter seulement 20 à 25% du prix de leur appart.
Et donc, les emprunts se remboursent au fil de l'eau et des locations, c'est ça ?
On rembourse les emprunts sur 30 ans, puisque c'est un prêt locatif social, un prêt issu de la Caisse des dépôts et consignations, si vous voulez, pour favoriser des logements destinés à des ménages sous plafond de ressources. Et c'est ce qui nous permet de cette mixité sociale, avec certains qui apportent beaucoup, d'autres qui apportent moins, certains qui payent beaucoup chaque mois, d'autres qui payent moins, nous permet de boucler le montage grâce aussi à ces prêts aidés, et puis aux gestes que font aussi la collectivité, le bailleur social qui a construit l'immeuble pour nous en étant moins cher qu'un promoteur, en proposant le prix du mètre carré constructible à un prix adapté aux revenus sociaux des ménages, etc.
On y reviendra éventuellement. Alors Elisa Terrade, vous, donc c'est un habitat participatif à Beaumont-sur-Lèze, donc on est au sud de Toulouse, une bonne demi-heure. Ça s'appelle Mascop. C'est un peu la même aventure. J'ai envie de vous demander à vous comment vous en avez entendu parler et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous y lancer. Vous êtes lancé en famille, tout comme Thomas. À l'époque, famille avec deux enfants, maintenant trois.
Oui, bah, c'était un pur hasard. J'avais jamais entendu parler d'habitat participatif. Je me projetais dans une maison à la campagne, puisque à l'époque, on habitait à Toulouse. Et j'avais envie d'un habitat de qualité avec des matériaux biosourcés.
Biosourcés, ça veut dire quoi pour ceux qui ne sont pas habitués ?
Ça veut dire être un peu plus proche des matériaux bruts, donc du bois, de la laine végétale pour l'isolation, des choses qui sont un peu plus simples, on va dire.
Biosourcé, ça ne veut pas dire aussi près de chez soi. Ça n'a rien à voir.
Oh, on peut l'inclure aussi dessus.
D'accord.
Hein. Ouais, ouais, ouais.
Donc, comment vous en avez entendu parler et pourquoi vous avez rejoint cette aventure ?
Et j'ai vu une annonce sur Internet à ce sujet-là. Et il y avait des logements disponibles dans les 6 mois à venir. C'était l'ouverture de l'aventure, puisque à Mascop, les logements ont été livrés été 2019. Et on y a réfléchi avec mon mari, on a été voir plusieurs fois le lieu, participer à quelques chantiers, parce que ça, c'est un peu la base de l'habitat participatif, de participer.
Chantier de finition chez vous, si j'ai bien compris, hein, c'était...
Oui, oui. On avait justement pu négocier avec les chalets qui étaient notre promoteur immobilier, de pouvoir faire quelques menus travaux pour aussi alléger le coût général, donc la peinture des volets, faire quelques cloisons en terre à l'intérieur des logements, des choses qui sortent un peu du classique du logement social.
Alors, qu'est-ce qui vous a plu en fait là-dedans, dans l'aventure? C'est...
Alors, d'une, le logement de très bonne qualité, que moi, avec mes ressources, j'aurais jamais pu me payer, même sur un emprunt sur 30 ans. Couplé à une vie de voisinage où on connaît ses voisins, et ça c'est quelque chose qui me faisait peur, de me projeter à la campagne en me disant finalement je peux arriver aussi dans une résidence ou dans un village où personne ne se parle, où il y a des grosses tensions. Or là c'est vraiment au cœur du projet de se connaître, d'avoir des temps en commun, que ce soit via les chantiers, via des repas, des apéros, l'organisation de festivals, de conférences. Il y a plein de temps de rencontres. Qui fait que voilà, on se connaît, on prend soin les uns les autres et on peut s'organiser pour se soulager le quotidien les uns les autres. Ça, c'était aussi. Ça allait de soi pour moi dans l'habitat du futur, de pouvoir compter sur ses voisins.
Se soulager, ça veut dire quoi ? C'est partager les gardes d'enfants en cas de pépin ou,
Par exemple,
c'est ça ?
Très simplement, parce qu'on a confiance dans ses voisins puisqu'on les connaît. On peut organiser du covoiturage pour aller à l'école. Des courses en commun, plutôt que chacun aller chercher son panier à la MAP, bah, y a une personne qui va chercher pour cet logement.
Aider à vieillir les plus anciens aussi,
exactement.
Ça compte beaucoup ça.
Voilà,
ouais.
Quel est un peu on va dire le spectre d'âge justement dans votre...
Ça va de 9 mois à 65 ans, par là.
Pas plus, d'accord.
Plus de 70 ans, pardon.
Je remercie la jeunesse de m'avoir accueilli.
Oui, oui, on a notre retraité doyen se fait un plaisir de s'occuper du potager, qui est assez conséquent, et heureusement qu'il est là, parce que les familles bien prises ont moins le temps.
Alors vous êtes installé en novembre 2019, donc c'est relativement récent. Si vous regardez un peu dans le rétroviseur déjà, je ne sais pas, qu'est-ce que ça a changé un peu dans votre existence, voire même dans votre équilibre familial ou aventure familiale ?
On est tous bien épanouis là au sein de Mascop. On a appris à se donner et on a beaucoup reçu... En termes de bienveillance, enfin, vraiment, le fait d'être en confiance avec les autres, c'est très important pour nous. Et on apprend tous les jours des nouvelles choses. Enfin, moi, je me retrouve propulsée dans des commissions, parce qu'on a organisé sur une dizaine de commissions, les uns qui s'occupent du potager, des travaux, de l'administratif, de la communication. Enfin, il y a toutes sortes de services... à rendre pour Mascop, et c'est des choses qu'on découvre vraiment sur le tas. Moi, j'ai appris, en étant au comité de gestion, à gérer beaucoup de choses et j'avais jamais eu à toucher avant.
Thomas Berthet, peut-être avant qu'on fasse une deuxième pause, j'imagine que ça fait écho. Qu'est-ce que vous voudriez rajouter ou qui complète un petit peu, vous, la manière dont vous vivez cette aventure ?
Non, je rebondis volontiers sur la fin du propos d'Elisa. On a une volonté d'éducation populaire, alors le peuple en l'occurrence, c'est nous simplement, hein. C'est d'apprentissage permanent et puis d'aller au-delà. Effectivement, les oasis habituellement ne sont pas forcément seulement des lieux de vie, ils peuvent être aussi des lieux d'activité. Alors dans un îlot d'habitat, comme c'est notre cas à Toulouse, dans un quartier dense, c'est pas forcément très facile de développer de l'activité, mais quelques-uns s'y essayent quand même.
C'est la question que j'allais vous poser, parce qu'il y a aussi il y a partage, mixité générationnelle, mixité sociale, responsabilité environnementale, donc harmonie avec le quartier.
Exactement.
Ça fait partie du projet d'avoir une sorte de rayonnement local ou de faire du lien, comme on dit ?
Oui, on a choisi la cartoucherie parce que c'était un éco-quartier qui nous paraissait un peu substantiel dans son ambition. Et néanmoins, on a envie d'en rajouter un peu de l'ambition. Et donc, certains d'entre nous ont lancé la création d'associations qui peuvent devenir elles-mêmes des coopératives qui s'appellent Cartoutech ou Cartoucirque. Cartoutech pour un partage d'outils, comme on dirait, une sorte de Kiloutou coopératif, mais qui irait au-delà avec beaucoup de mutualisation de savoir-faire et de biens. Et puis Cartoucirque comme économie circulaire à la cartoucherie, avec l'idée de produire beaucoup moins de déchets, de recycler et de réutiliser beaucoup plus, et de développer là des nouvelles formes d'activité économique
qui
aillent dans ce sens.
Donc c'est une coopérative, c'est ça, mais où c'est un lieu où vous invitez les gens pour rentrer dans cette logique avec vous, c'est ça ?
Le lieu reste à créer, hein, au cas particulier, en accord avec la société d'économie mixte de la métropole qui gère ce projet d'éco-quartier, qui n'est pas encore achevé, donc il reste des marges de négociation, mais c'est simplement pour dire que certains habitants, même si leur immeuble n'est qu'un immeuble d'habitation, utilisent ce pied dans le quartier pour créer là une activité économique intéressante qui est tout à fait dans cette logique des oasis de résilience, etc., que ce soit à travers l'économie circulaire ou l'entraide et la mutualisation.
Alors j'aurais quand même une ou deux questions avant qu'on fasse cette deuxième pause, c'est quid de la gouvernance, parce que c'est vrai que ça paraît magnifique comme ça, mais comme ça fait du monde, il faut arriver à s'organiser, et puis j'imagine que vous n'échappez pas quand même, même s'il y a beaucoup de bienveillance dès le départ dans ce type de projet, aux traditionnelles engueulades entre voisins. Mmh. Alors quels sont les outils qui sont mis en place dans vos oasis, et puis on imagine en général pour essayer de réguler tout ça?
Alors, il n'y a pas de règle générale, hein, on verra comment c'est géré à Mascop. En tout cas, au sein d'Abricop, on a créé effectivement des types de réunions différenciées au fil du mois. On se réunit parfois pour trier les sujets sans les traiter, parfois pour les traiter vraiment en choisissant seulement un ou deux, parfois pour faire des réunions de bilan qu'on appelle des réunions sourires et grimaces. Et puis on organise le vin de chaque mois, le vin du mois VIN, où on boit un coup et on parle d'autre chose. On choisit exprès de ne pas parler de la coopérative et de sa gestion, mais de changer de sujet et d'ouvrir le champ. Et on a également des pique-niques d'îlots le dernier week-end de chaque mois, de la même manière qu'on a le 12 de chaque mois, une réunion tout à fait sérieuse, au contraire, pour gérer l'îlot.
Comment se prennent les décisions ?
Et donc on prend ces décisions-là, autant que faire se peut à l'unanimité, ou à défaut au moins au consensus ou par consentement, avec toutes les nuances entre les deux termes. Et en cas de conflit, puisque vous l'évoquez, et effectivement ça arrive, on essaye d'abord de prévenir ces conflits, des méthodes d'animation, de réunion et de prise de décision qui prennent leur temps, qui incluent l'avis de chacun. Typiquement, s'il y a une position A et une position B, on va éviter d'organiser un vote rapide entre la position A et la position B avec des vainqueurs et des perdants. On va essayer d'élaborer une position C ou B prime qui tienne compte des avis des uns et des autres et qui soit une sorte de compromis intelligent où les uns et les autres auront bonifié la décision. Et en cas de conflit, vraiment, on a instauré des gardiens de la bienveillance en plus de ces réunions sourires et grimaces qui sont là pour créer des médiations quand c'est nécessaire entre personnes qui ont eu des mots pour essayer de temporiser et de repartir de l'avant.
Peut-être Elisa Terrade, rapidement, en cas d'engueulade avec les voisins, comment ça se passe chez vous ? De problèmes de voisinage, comme on dit dans le jargon ?
Alors nous, on a une règle qui est de ne pas s'exprimer par mail, vraiment de privilégier la rencontre, d'aller se voir, d'aller parler. Le fait qu'on soit sur des logements qui sont tous très proches, ça facilite cela. Et on a également deux médiateurs qui sont élus tous les 6 mois, qui peuvent faciliter les échanges en étant neutres, en retrait. Après, chacun fait comme il peut,
au fil de
comme partout.
Allez, on fait une deuxième pause et puis on va continuer de vous retrouver. Je vais vous faire réagir à une interview de Pierre Rabhi, donc figure à l'origine, en partie peut-être en tout cas inspirante pour tout ce mouvement. Et on imagine aussi pour vous, c'est un entretien qu'il avait donné il y a quelques temps de cela, au moment du début de la crise de la Covid. C'était en mai 2020, mais ça reste d'actualité. Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Oasis, les Colibris, le monde d'après, point d'interrogation, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Et toujours pour rappel, pour tous ceux qui rejoignent parfois les émissions en cours de route, et pardon pour les autres, étaient avec nous au début de l'émission Gabrielle Paoli, directrice générale adjointe de la coopérative Oasis, et sont avec nous Elisa Terrade et Thomas Berthet, tous les deux dans des habitats participatifs en Haute-Garonne. Pierre Rabhi, c'est donc... je vais vous laisser, on va dire, nous dire ce qu'il est pour vous. En tout cas, c'est un célèbre écologiste qui a écrit de nombreux ouvrages, qui a donc été une figure largement inspirante, qui vit en Ardèche et qui donc à l'occasion du, pas du dernier confinement, mais juste après, si je ne me trompe pas, c'était donc le 1er mai 2020, une interview pour France 3 Rhône-Alpes, qui avait été retranscrit par écrit, que je me suis ressorti, et qui a des phrases comme il en a, disant que la Covid, c'est une leçon magistrale pour nous. C'est un moment très initiatique, osait-il même dire. Et puis, il revenait évidemment sur la destruction de la biodiversité et favorisant peut-être l'émergence de cette réalité. Alors, avant ça, pour vous, Pierre Rabhi, qui est-ce? Vous diriez Elisa Terrade. C'est quelqu'un qui vous inspire, que vous avez découvert à la faveur de votre aventure avec Mascop?
J'en avais déjà entendu parler avant. Je retiens de lui que c'est quelqu'un qui ose, qui fait ce qu'il peut à son niveau. Et c'est ce qui m'a plu aussi dans le projet de Mascop, c'est que c'est des gens qui n'avaient pas forcément les compétences au début et qui ont osé rêver et se frotter aux grosses institutions, comme disait Gabrielle Paoli au début, des gens qui, des banques ou des comptables ou le greffe pour qui les coopératives ne rentrent pas dans les cases et il faut un peu aller se frotter, expliquer le projet, débattre, passer beaucoup de temps comme pour Abricop, 10 ans de construction avant que ça sorte de terre. Et voilà, je trouve qu'il est inspirant, Pierre Rabhi, pour ça.
Thomas Berthet, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce qu'il représente peut-être pour vous?
Moi, je retiens 4 choses. La première, c'est le fait qu'il ait réussi à redonner vie à une terre austère, qui était vraiment quasiment que du caillou, et il en a refait quelque chose d'intéressant.
Ah, c'est d'abord un paysan.
Exactement. Il s'est pas attaqué à partie facile. Et puis ensuite, il a utilisé cette compétence dans une dimension nord-sud importante pour lui et aux yeux des écologistes en général, qui consiste à essayer de capter le peu d'eau qui peut exister quelque part avec des filins pour que les légumes ou les fruits qu'on fait pousser dessous puissent en profiter, même s'il ne pleut jamais, par exemple, et de redonner vie comme ça à des endroits très difficiles. Et c'est ô combien utile dans ces périodes de raréfaction de l'eau, par exemple, ou d'épuisement des sols. Il a également créé un aspect formation essentiel à travers Terre et Humanisme pour amplifier
un
phénomène de bras de levier. Voilà, Terre et Humanisme, c'est une association qu'il a créée, qui fait partie de sa galaxie, pour proposer des formations d'agroécologie à d'autres pour que ça puisse être utilisé largement. Et puis enfin, il a monté effectivement... en Ardèche, lui, sa fille également, des habitats groupés, on ne disait pas encore participatifs à l'époque, pionniers, y compris avant même qu'on crée les premières coopératives d'habitants en France, avec un montage alternatif qui réussissait quand même à être anti-spéculatif et à sortir de la loi du marché. Donc voilà, quelqu'un qui a quand même été plutôt en avance qu'en retard sur son temps.
Alors dans cette interview, on trouve plein de choses. On trouve, entre autres, la question du journaliste et à un moment et la suivante. Vous avez publié il y a peu un livre, J'aimerais me tromper, dans lequel vous faites le constat d'une société vaniteuse où le vivre ensemble n'existe plus, carrément. Et Pierre Rabhi de répondre, entre autres, on va dire, parlant de la technologie, ce qui est dangereux, c'est que les machines censées nous aider à améliorer la communication sont celles qui la détruisent. Et puis c'est une phrase qui, chez lui, est un peu un leitmotiv. On a confondu communication et relation. Elisa, vous vouliez rebondir sur ce point qui vous a un petit peu parlé dans cette interview. Pourquoi?
Parce que je trouve qu'on y a tous confrontés au fait d'être submergés par des moyens de communication sur le téléphone, sur l'ordinateur, dans la voiture, partout.
Il prend l'exemple du train, vous pouvez peut-être le reciter.
Dans le train, Paris, il explique effectivement qu'il il arrive dans le train et il s'installe et tous ses voyageurs sont sur leur téléphone en train de communiquer ou de faire autre chose, mais chacun dans sa bulle. Or, lui, il a connu un temps où les gens se parlaient, échangeaient des banalités et finissaient par sympathiser. Et c'est quelque chose qui demande maintenant de l'énergie, de vraiment poser le choix d'aller à la rencontre de l'autre en vrai et non plus que en virtuel. Et c'est un écueil dans lequel on pourrait tomber aussi dans l'habitat participatif où on utilise beaucoup, beaucoup de médias, d'outils partagés. On a créé des intranets, des sortes de WhatsApp aussi pour échanger sur tous les aspects organisationnels. Et ça prend beaucoup de place, donc on a aussi à être vigilant à toujours revenir vers l'autre, le croiser dehors à la buanderie, sur les réunions, sur les apéros, sur des temps comme ça.
Alors il y a plein d'autres choses, hein, parce que on va dire le constat clinique de Pierre Rabhi est souvent dur, hein, d'oser dire comme ça que la crise de la Covid, c'est un moment très initiatique. C'est vrai que c'est quand même assez culotté. Il entendait probablement un grand révélateur. Je finirai par une chose, cette question d'un journaliste. Pierre Rabhi, vous restez toujours optimiste et vous pensez qu'après cette crise, on ne pourra pas faire comme si rien ne s'était passé. Mais comment faire pour être sûr de ne pas recommencer comme avant? Et puis un peu plus loin, en gros, le journaliste lui demande comment vous faites pour continuer à espérer. Il est souvent trop tard, répond Pierre Rabhi, mais il est aussi souvent encore temps. Est-ce que par moment, bien que vos initiatives soient belles, hein, vous êtes pris un peu par Thomas Berthet, par ce découragement et ce sentiment, en l'occurrence en ce moment, que ça recommence comme avant?
Clairement oui. Je serais presque tenté de dire, même si c'est ironique, que mon espoir, c'est ma grande confiance dans cette fuite en avant, dans la capacité qu'elle a à générer des catastrophes. Et finalement, ce qui nous fait progresser, c'est les catastrophes. On l'a vu avec cette pandémie, on est devenu plus intelligent pendant, du point de vue de notre organisation commune. On a arrêté de voyager en avion comme des imbéciles pour partir en week-end à l'autre bout de l'Europe. On a été contraints à faire ce que notre sagesse ne nous suffisait pas de faire.
C'est-à-dire que vous espérez le pire, presque, c'est ça que vous laissez entendre?
Au contraire, afin d'éviter le pire, j'espère que des contraintes fortes vont s'imposer à nous pour remplacer la sagesse que nous n'avons pas. Voilà, pour dire les choses simplement. Alors, ça ressemble un peu à ce que dit Pierre Rabhi. Oui, on lance quelques initiatives favorables, mais on n'est pas des saints non plus, à dire vrai. Et si on devait regarder même au sein de nos coopératives, de nos habitats participatifs ou de nos oasis, qui a une empreinte écologique vraiment exemplaire, c'est-à-dire vit de telle façon qu'une seule planète suffirait si tout le monde vivait de sa façon à lui, ben, pas grand monde, en vrai. C'est-à-dire qu'on a beau faire beaucoup d'efforts, mutualiser beaucoup de choses, réduire notre empreinte écologique, on continue à être des Français plutôt du monde riche, et le seul fait de bénéficier de tous les services publics que l'on a dans un pays aussi développé que la France fait que, avant même d'avoir fait quoi que ce soit le matin, on a déjà consommé notre crédit carbone, notre quote-part. Juste comme ça, sans rien faire, à travers les impôts qu'on paye et les services dont on bénéficie. Donc, bien sûr, on est pris dans ce paradigme. On a d'énormes efforts et sacrifices à faire dans les années qui viennent. Personne n'a envie d'avoir le niveau de vie d'un Indien pauvre, comme dit Jean-Marc Jancovici. Et pourtant, c'est ça qu'il faut. C'est l'objectif qu'on doit atteindre si on veut pouvoir survivre. Donc, on va avoir besoin de contraintes pour y arriver. J'ai pas... Alors, simplement, ce qu'on invente, et je crois que ça n'a de sens que si on les multiplie beaucoup. Je dis souvent que notre immeuble de 17 logements n'est qu'une brique, ou alors il n'a aucun sens. On ne sort pas de la spéculation immobilière avec 17 logements, mais en faisant mouvement. C'est pour ça qu'on se connaît autant entre Mascop, Abricop et les autres groupes de France à travers la fédération Abicop. C'est parce qu'on essaye de créer un vrai tiers secteur un peu massif pour avoir un effet levier, pour avoir un véritable impact et pas seulement quelques initiatives sympathiques par-ci, par-là, d'où cette idée d'éducation populaire, de coopération entre coopératives, etc. Sinon, on n'y arrivera pas. Voilà, donc on a besoin de ces relais et l'optimisme qui peut nous rester, c'est parce qu'on essaye d'avoir un bras de levier suffisant pour que les solutions soient prêtes au moment où on est contraint de les adopter.
Elisa Terra, peut-être le mot de la fin, je prends un autre extrait de l'interview, je vois le temps qui passe, pardon, je vous coupe. C'est Pierre Rabhi, je suis pour une révolte, mais pas une révolte point levé et violente, il faut une révolte d'amour, pas de haine, il faut être indigné pour l'amour. Est-ce que ça vous parle? Et pour finir, peut-être, quelle est, on va dire, votre espérance? Ce nouveau monde auquel qu'on nous a tant vanté pendant le temps de confinement, au moins.
C'est fort ce qu'il dit. Après, c'est un chemin intérieur. C'est très personnel. Si plusieurs personnes qui portent ça se retrouvent et arrivent à se motiver quand l'un ou l'autre baisse les bras, eh bien, tant mieux. Je le rejoins tout à fait. Hein. Je crois vraiment que c'est l'amour qui nous sauvera. Après, c'est un vrai défi au jour le jour et ça passe par des choses très simples, très pauvres et pas forcément dans des projets immenses qui donnent des étoiles dans les yeux. Ça, c'est la phase un peu bulldozer, mais il y a tous les aspects derrière très personnels qui font que les gens, ils s'effacent, ils prennent du temps, ils donnent du temps, ils sont jamais reconnus, on les connaîtra jamais. Et c'est ceux-là qui sont porteurs d'amour, même s'ils ne le savent pas toujours, d'ailleurs.
Eh ben, merci beaucoup. Je finirai par cette citation de Pierre Rabhi. Certes, il y a beaucoup de dégâts, mais il y a aussi toujours un peu d'espoir. Alors, je m'inscris dans ce qui va aider à solutionner les choses. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé la légende du colibri. Et puis, il pose une question. J'ai une vie, elle a ses limites, mais j'ai une présence sur cette planète. Qu'est-ce que je fais de ce capital? Merci beaucoup d'être venu nous parler du mouvement des colibris, des coopératives Oasis et de vos habitats participatifs. Un grand merci.
Merci pour votre invitation.
À la technique, Christophe Aubry, vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.